Bon, plante-toi un peu le décor pour commencer.
Avec plaisir, on t'écoute.
Imaginons la scène. On est dans une cuisine, un matin, tout ce qu'il y a de plus banal.
Le fameux petit déjeuner quotidien.
Voilà. Et on a cet ancien athée qui est devenu l'un des érudits bibliques les plus respectés au monde.
Quelqu'un de très analytique, quoi.
Exactement. Le genre de chercheur qui passe littéralement ses journées à disséquer des manuscrits antiques avec une précision chirurgicale. Et là, sa femme se tourne vers lui et fait une remarque du genre « Il va pleuvoir cet après-midi
Rien de très controversé, en somme.
». C'est ça. Mais lui, impossible de sortir de son mode de réflexion académique. Il la regarde super sérieusement et lui demande de fournir des preuves empiriques et une bibliographie pour étayer cette affirmation.
Ah oui, c'est le moyen le plus rapide de déclencher un incident diplomatique majeur dans un couple.
Claire, exiger le protocole d'une thèse de doctorat pour la météo, c'est le moment précis où la tour d'ivoire de l'intellect percute la réalité de plein fouet.
Mais c'est une histoire vraie, n'est-ce pas? Celle de l'érudit qu'on étudie dans cette exploration?
Absolument. C'est tiré de la vie du docteur Craig Kinner. Et franchement, c'est la porte d'entrée parfaite pour notre analyse d'aujourd'hui.
Une plongée dans le chapitre 8 de l'épître aux Romains, c'est bien ça?
Ouais, les versets 5 à 26 très exactement. Notre mission, c'est de comprendre comment notre esprit analytique peut cohabiter avec une spiritualité profonde.
Et pour mesurer l'impact de ce chapitre 8, il faut vraiment comprendre d'où l'on vient dans le texte.
Du chapitre 7, du coup.
Une lutte perpétuelle et un échec cuisant. Mais le chapitre 8 propose une rupture totale. On entre dans ce que l'auteur appelle la pensée de l'esprit.
Bon, décortiquons ça, parce que c'est fascinant. On a tellement pris l'habitude de monter la foi et la raison l'une contre l'autre.
Oh que oui, c'est un très grand classique.
Dans l'imaginaire collectif, on a les intellectuels froids d'un côté, et de l'autre, les personnes spirituelles, genre déconnectées de la logique.
Et le texte original pulvérise complètement cette fausse séparation. Le terme clé en grec, c'est phronema.
Phronema, ça veut dire quoi au juste?
Du tout l'abandon de la rationalité.
Donc c'est la dimension cognitive, mais influencée par l'esprit divin.
C'est exactement ça. Et l'anecdote de notre érudit est super intéressante là-dessus. Quand il était athée, il avait fait de son propre intellect une véritable idole.
Le rationalisme pur.
Mais après sa conversion, il a fait un rejet total de son passé.
Ah, le classique mouvement de balancier.
C'est ça. On passe d'un extrême à l'autre, sans nuance. Il s'était mis en tête que réfléchir, c'était devenu inutile.
Donc il attendait juste que des révélations tombent du ciel.
Ouais, sans que son cerveau ne fasse le moindre effort. Mais un jour, alors qu'il refusait activement de réfléchir à un texte, il a eu une sorte de flash mental.
Genre une révélation.
Une dizaine de versets bibliques lui sont apparus simultanément dans la tête. Et tout soulignait l'importance cruciale de l'intelligence.
Waouh, le recadrage.
Il cite notamment la première lettre aux Corinthiens qui martèle qu'il faut prier avec son esprit, mais qu'il faut impérativement prier aussi avec son intelligence.
Franchement, refuser d'utiliser ses facultés cognitives sous prétexte de ferveur, ça me fait penser...
À quoi?
C'est comme s'asseoir devant un piano de concert magnifique et insister pour jouer une symphonie avec un seul index.
Ah, l'analogie est redoutablement pertinente.
Je veux dire... On a 10 doigts. On a un cortex préfrontal ultra développé. Pourquoi on devrait l'éteindre quand on cherche du sens?
C'est exactement le propos. L'esprit divin ne vient pas contourner notre matière grise, il vient travailler avec elle.
Mais c'est là que mon esprit critique s'emballe un peu.
Vas-y, dis-moi.
Si on n'est plus dans le cadre rassurant de la méthode scientifique avec ses preuves en labo, comment on fait pour filtrer le réel du charlatanisme?
Ah, ça c'est la grande question de l'épistémologie. Comment on évalue la vérité?
Et c'était déjà un problème dans l'Antiquité.
Totalement. Notre source souligne un problème majeur dans l'Église antique de Corinthe. Ils utilisaient des critères complètement faussés.
Faussés comment?
Eh bien, ils jugeaient les orateurs comme on juge des influenceurs aujourd'hui, sur leur charisme, leur apparence.
Une épistémologie de la célébrité, en gros.
C'est ça. Si l'orateur était brillant, on assumait que son message était vrai. Et c'est là que l'histoire de la météo dans la cuisine de notre érudit revient.
Ah oui. Le besoin d'une méthode stricte, comme celle de David Hume.
Sauf que le modèle de Hume, avec l'expérience reproductible en labo, c'est génial pour la chimie. Mais ça s'effondre pour l'expérience humaine.
C'est sûr qu'on ne peut pas recréer la Révolution française sur commande.
Voilà. En histoire ou en anthropologie, on dépend d'une autre méthode. L'évaluation de témoins fiables.
Donc, se fier à un témoignage humain, ce n'est pas forcément être naïf.
Au contraire. Accepter le récit d'un témoin jugé digne de confiance, c'est une démarche épistémologique super valide. Et ça nous aide à comprendre l'opposition célèbre de Paul entre la chair et l'esprit.
J'avoue que le mot « chair », ça me fait direct penser au corps, aux os, aux pulsions.
C'est l'erreur de traduction mentale la plus courante. Il ne parle pas du tout de notre état émotionnel, du style « j'ai pas eu mon café, donc je suis dans la chair ».
Ah bon ? Il parle de quoi alors ?
Il utilise ce que les philosophes appelaient des types idéaux, des catégories conceptuelles.
Des caricatures, en quelque sorte.
Voilà. Les stoïciens opposaient le sage idéal au fou. À Qumran, les Esséniens parlaient des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres.
Mais ils savaient très bien que personne n'était parfait à 100%, on est d'accord, hein ?
Absolument. Le sage idéal, ça n'existait pas dans la vraie vie. C'était juste une boussole.
Donc la chair, c'est la trajectoire de l'humain repliée sur lui-même, et l'esprit, c'est la trajectoire orientée vers le divin.
C'est tout à fait ça. La vraie question, c'est vers quel pôle gravite notre intellect ?
D'accord. Mais à quoi ça ressemble au quotidien, cette pensée de l'esprit ? Le texte parle de paix, non ?
Oui, la pensée de l'esprit produit la paix. Cette fameuse tranquillité d'esprit que les Grecs recherchaient désespérément.
Sauf que les stoïciens cherchaient ça par un contrôle de fer sur leurs émotions.
Et c'est là que ça casse. Notre érudit raconte une expérience en Côte d'Ivoire qui illustre bien la futilité de cette méthode.
Mince, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il devait parler devant 1700 pasteurs, et ses médicaments antipaludisme ont déclenché des effets secondaires psychotiques.
Waouh ! L'ironie totale pour un intellectuel qui contrôle sa pensée.
Il a fait des crises de panique monumentales. Et comme son approche, c'était de tout analyser, il a commencé à paniquer à l'idée même de paniquer.
Il essayait de micro-gérer son anxiété par la logique. L'enfer.
Exactement. Être conduit par l'esprit, ça demande un abandon. Le terme « conduit » utilise d'ailleurs le vocabulaire de l'Exode.
Comme être guidé jour après jour dans le désert ?
C'est ça, une direction morale. Et ça peut mener à des rencontres assez folles.
Ah, tu penses à l'histoire de Lorena. Alors là, on se croirait vraiment dans un script de cinéma.
Les circonstances sont vertigineuses. Un soir, il enseignait et il s'est senti poussé à sortir et à marcher au hasard.
Une impulsion complètement irrationnelle.
Totalement. Et il tombe, au hasard, sur un vieil ami de lycée, un non-croyant assumé.
Qui était assis juste à côté de Lorena.
Voilà. Et Lorena, c'était une jeune femme avec un alcoolisme sévère, issue d'un foyer brisé, et extrêmement méfiante envers la religion.
Elle avait dû voir tellement d'hypocrisie que les discours pieux ne passaient plus.
Mais justement, ce qui est fascinant ici, c'est que l'argument spirituel n'est pas venu de l'érudit.
Il est venu de l'ami non-croyant, c'est ça ?
Oui. L'ami laïque a commencé à témoigner devant Lorena de la transformation et de l'intégrité de notre chercheur.
Et ça, c'est le point de bascule épistémologique, parfait. Lorena pouvait écouter ce témoin extérieur et neutre.
Exactement. Les barrières de Lorena ont volé en éclats. C'est la synergie parfaite entre une direction divine et les dynamiques humaines logiques.
Franchement, ça donne le vertige. Mais il y a quand même un piège avec cette idée d'être guidé.
Lequel ?
Ça pourrait vite ressembler au management d'une multinationale. Genre, on suit les ordres d'un PDG cosmique distant.
Ah oui, je vois. Mais le texte prend un virage radical sur l'intimité, avec le concept d'adoption et ce cri viscéral, Abba.
Abba, c'est le mot père en araméen, non ?
Oui, et les historiens se demandent pourquoi des Romains parlant grec utiliseraient un mot araméen.
Et quelle est la réponse ?
Des érudits comme Joachim Jérémias ou Geza Vermès expliquent que c'est parce que Jésus a rendu ce mot célèbre à Gethsémani.
Ah oui, lors de sa prière angoissée juste avant son exécution.
C'est ça, et ça communiquait une intimité et un respect incroyables, l'équivalent de « mon papa aujourd'hui ».
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à Rome, l'adoption, c'était super froid.
Un contrat légal, pour s'assurer un héritier politique, oui.
Alors qu'ici, on a un esprit qui rend témoignage, qui murmure à notre esprit qu'on est légitimement désiré.
Le fameux témoignage intérieur, si cher à John Wesley et aux Moraves.
Quand on pense aux gens aujourd'hui qui portent les blessures de pères toxiques, cette paternité réparatrice, c'est bouleversant.
C'est très thérapeutique. Mais paradoxalement, ça soulève le point le plus difficile du chapitre.
La question de l'héritage et de la souffrance ?
Oui. Si nous sommes les enfants choyés de ce papa, pourquoi traversons-nous tant de souffrances ?
Le fameux problème de la douleur. Et le texte parle d'abord d'un aconti, c'est bien ça ? Le harabon.
C'est le terme antique, oui. L'esprit est la garantie de notre héritage futur.
Mais l'aconte n'empêche pas la douleur. C'est comme signer pour une maison de rêve, mais devoir vivre dans le chantier en plein travaux pour l'instant.
J'adore cette analogie. On a la garantie, mais on vit au milieu de la poussière. Et cet héritage, la gloire, c'est aussi très physique.
En hébreu, gloire, kabod, ça veut dire lourdeur, non ?
Tout à fait.
lors de la dédicace du temple de Salomon, la présence était si lourde que les prêtres s'effondraient, incapables de rester debout.
Donc, en attendant cette transformation future, on subit les travaux. Et le texte utilise une image clinique, celle des douleurs de l'enfantement.
C'est le pivot pour comprendre la vision antique. À Qumran, il ne voyait pas la souffrance comme un accident nihiliste.
Ce n'était pas les spasmes de l'agonie, mais les contractions avant une naissance.
Exactement. Et c'est pour cela qu'on a ces trois gémissements dans le texte. La création qui gémit.
Sous le poids de la dégradation, ouais.
Et puis nous qui gémissons dans nos corps fragiles.
En attendant de nouvelles tentes immortelles.
Et le troisième, le plus fou, c'est l'esprit qui gémit en nous avec des soupirs inexprimables.
Des gémissements inexprimables. Ce n'est pas le parler en langue, alors ?
Le docteur Kinner insiste là-dessus. Même s'il le pratique, il note que le mot pour langue, glossa, implique des syllabes. Ici, c'est inarticulé.
C'est vertigineux. Genre quand le trauma est si grand qu'on n'a plus de mots, l'esprit prend le relais.
Et exprime notre douleur pure dans le silence, ouais.
Eh ben, alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour ceux qui nous écoutent face au chaos de notre époque ?
On a réconcilié pas mal de choses. L'intellect et le spirituel, le fameux phronema.
On a vu le courage de s'appuyer sur des témoignages fiables, la paix face à la panique de l'hypercontrôle.
Et la tendresse bouleversante de ce cri « Abba ».
Et surtout, on a transformé nos souffrances en douleurs d'enfantement. Ce qui me mène à une question provocatrice pour finir.
Ah, je t'écoute.
Si nos souffrances actuelles sont véritablement les contractions d'un monde nouveau, comment ça change notre vision des pires moments de notre vie ?
C'est une vraie question de perspective.
Se pourrait-il que nos gémissements les plus profonds, quand on n'a même plus les mots, soit en fait la langue d'une création nouvelle en train de naître.
Une langue viscérale qu'aucune IA ne pourra jamais décoder, mais que seul l'esprit peut parfaitement traduire. Ça laisse de quoi réfléchir.